Eh, mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guesnais m'appellent le chair. Les Fimbi 500 et les grandes sœurs de mes Fimbi, Big 500. Sarcelle représente Sekt Abdoulaye, évidemment. Bienvenue sur We Hustle, c'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Hugo, take a seat, non? Hey, as it dead people. PDG.
We hustle, baby. The chairman. We hustle, baby. The chairman. We hustle, baby. The chairman.
De retour sur We Hustle. Et aujourd'hui, je suis fier d'accueillir Mathias Pogba.
Take Mathias, a seat, ego.
Comment tu vas, frangin?
Ça va toujours.
Tout est OK?
Tout est OK.
Ça fait plaisir de te voir. Merci d'avoir accepté l'invitation. On doit causer, frère.
Voilà pourquoi je suis là.
Ça fait plaisir, frère. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas?
OK. Bah, moi, je suis Mathias Pogba, grand frère de Paul et jumeau de Florentin, d'une fratrie de trois, footballeur professionnel. Pas mal, l'intro.
C'est très bien.
Ouais, pas mal, ça passe.
Frangin, on va retracer le parcours, on va retracer la vie, forcément. Ici, on a tout le temps. Il faut savoir que ton gars mitraille des questions.
Ouais, je me suis préparé.
Alors, moi, je veux que tu me parles. T'es né déjà à Conakry, mais t'es arrivé très tôt en France. Exactement. Donc, moi, je veux que tu me parles de ta jeunesse à Roissy-en-Brie, s'il te plaît.
OK. Bah, déjà, ouais, comme tu l'as dit, je suis né à Conakry le 19 août 1990. Et moi et mon jumeau, avec ma mère, on est arrivé en France à 2 ans, en 1992. Donc voilà pourquoi Paul est né en France, à Lagny-sur-Marne, dans le 77. On s'est installé à Roissy-en-Brie, aux zones, de rue des zones, avec mon père. On y a grandi jusqu'à nos 5 ans. Et après, on est parti dans le quartier de la Renardière, dans un autre quartier de Roissy. De nos 5 ans jusqu'à nos 21 ans.
D'accord. Voilà. Moi, je veux que tu me parles de l'ambiance à la maison déjà très tôt.
Bah, l'ambiance, elle a toujours été joviale. Ouais. Ma mère, mon père, ils nous ont toujours mis la musique depuis le plus jeune âge. Donc, on a toujours été des ambianceurs, on va dire. Ouais. On a grandi dans la musique. Plus on a grandi, on a commencé à diminuer quand même. Mais on a grandi dans l'ambiance, la musique et la joie. Donc,
c'est quoi les rêves musical?
Franchement, on est partout. Nous, on a mis pied partout.
Ouais.
Tu mets la musique, on est prêt. C'est ça qui
n'importe
nous différencie.
Quel genre.
N'importe quel genre. C'est ça qui nous différencie avec les autres.
Ok.
C'est ça.
C'est magnifique. Et tu sais, je voudrais qu'on s'attarde un petit peu encore sur l'ambiance à la maison parce que vous êtes trois, comme tu l'as dit. Mais il y a Yvette qui vivait avec vous.
Marie-Yvette.
Moussokoro également.
Ouais.
Tu vois.
Ah, tu t'es bien renseigné, toi. J'aime bien.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc déjà, c'est important que tu nous parles déjà de ces cousines, mais qui en réalité sont des grandes sœurs. Hein. Ouais. Donc, parle-moi de cette ambiance et de ces sœurs-là en particulier, s'il te plaît.
Ça, c'est le sang. Nous, on n'a pas fait de différence, cousines, tout ça. Nous, on n'est pas dans ça, nous. Tu grandis avec nous, t'es avec nous, t'es parmi nous. Tu vois? Ça, c'est la mif. Donc, ça a été. On a toujours une enfance joyeuse, toujours unie. Elles nous ont aidés pendant toute notre enfance. Quand on allait faire nos compétitions, elles nous accompagnaient de ping-pong, pardon. Parce qu'il faut que les gens sachent qu'on a fait du ping-pong,
mais
on en parlera tout à l'heure. Mais elles ont toujours été là pour nous jusqu'à aujourd'hui. Soutien. On est une famille, qu'on est unis.
C'est magnifique. Et on les embrasse, les grandes sœurs.
On les embrasse.
C'est quoi la différence d'âge entre vous et elles?
Il y en a une, on a 4 ans de différence. Et l'autre, on a... une 5 ans de différence. Et l'autre, on a 7 ans de différence.
D'accord, ouais.
Ouais.
Donc, c'est des grandes, grandes sœurs.
C'est des grandes, grandes sœurs. Ouais.
Je comprends. Et tu vois, vous êtes une famille vraiment qui est dédiée au sport. tu viens de m'emboîter le pas en parlant de du tennis de table, mais apparemment, t'es un tueur, champion de France même à 10 ans. Donc,
9 ans.
9 ans.
Ah, encore, voilà, c'est important.
Mais déjà, parle-moi de cette découverte-là et même du fait que t'aies été envoyé à Montry pendant quelques temps.
Crips.
Exactement.
Oh mon gars, tu t'es renseigné. Mais j'aime bien. Ouais. Parce que, tu sais pourquoi déjà j'aime bien ça?
Ouais.
Parce qu'il y a plein de personnes qui veulent faire des interviews, mais ils viennent, ils viennent pas renseigner, ils viennent juste pour que tu parles. En fait, non, chacun doit faire son boulot et tu l'as très bien fait et je t'en remercie.
Merci mon frère.
Donc, je suis en CE2. Notre sport d'activité de l'école, c'est ping-pong. Et Monsieur Zmuda, je me rappelle son nom carrément. Monsieur Zmuda, il nous amène à la salle de tennis de table et il voit que je sors du lot, tu vois. Moi et mon frère, on sort du lot. On n'était pas dans la même classe, mais nous deux, on sortait du lot de là où on est dans chaque classe, tu vois. Et quand je vais là-bas, même le coach du tennis de table qui nous en, il dit, ouh, lui, il faudrait qu'il revienne, lui, parce que je vois qu'il y a quelque chose, tu vois. Moi, je suis là, je dis, ok, on revient, hein, bah, on va revenir. Et en espace de 3 ans, on a vraiment éteint dans toute la France. Chaque compétition qu'on partait, on gagnait. Et si tu ne me crois pas, j'ai le numéro de mon coach, tu l'appelleras. Ok. En loose day, tu l'appelleras, tu lui demanderas si c'est faux. On a éteint toute la France. Chaque compétition, on est même après l'année où on arrête, on était surclassé. On était minime, bon, on faisait des compétitions déjà avec les cadets pour te dire qu'on arrêtait, mais nous on préférait le foot. Donc on a éteint. On faisait des stages à l'étranger, tu vois, des stages de ping-pong de 2 semaines, tout ça. On était convoité pour aller là-bas.
Et comment t'expliques le fait qu'il n'y ait pas de convoitise sur ce sport-là? Parce que vous étiez des tueurs avec ton frère Florentin, mais en réalité, pour faire une carrière de...
pongiste.
Absolument. Mm. C'est pas évident.
C'est pas que c'est pas évident, en fait, ça...
Du moins à l'époque.
Hein. Ouais, à l'époque, ouais. Déjà les époques ont changé.
Absolument.
Mais à l'époque, le ping-pong, quand on dit « Ah, t'es pongiste », hein, c'est quoi ça, tu vois? Donc nous, déjà, cet aspect-là, le sport individuel, c'était bien, hein. Mais le sport d'équipe, ça nous parlait plus. C'est pour ça qu'on a bifurqué, tu vois.
Donc du coup, parce qu'à la maison, on ne l'a pas dit, mais c'était assez rudimentaire, c'était assez ric-rac. La maman, elle était dans son hustle, hein, elle essayait de travailler, de joindre les deux bouts tant bien que mal, tout en sachant qu'il y avait pas mal d'enfants à la maison. Donc toi, quand elle a dit qu'elle ne pouvait plus assumer vos déplacements, etc., moi, je veux que tu me parles de cette maturité parce qu'elle a dit... que vous ne lui avez pas tenu rigueur de ça.
Par rapport au ping-pong, on était sponsorisés à 9 ans. On recevait des raquettes, des plaques. Je ne sais pas si tu connais un peu. Des plaques, c'est-à-dire c'est avec le matériel avec lequel tu vas jouer. Nous, on recevait ça gratuitement par Banco. La marque, c'était Banco, sac, uniforme. Comment on appelle ça? Ouais, uniforme, short, t-shirt, sac, veste. On est à 9 ans. Et on recevait des primes de 200 euros, des trucs comme ça, par mois, à 9 ans. C'est-à-dire, on était déjà dans l'esprit de compétiteur, en mode, hey, on va tout péter. Donc, en fait, dans notre tête, c'était là où tout ce qu'on touche, on doit éteindre. Mais ça vient de la mentalité de mes parents, surtout mon père. Très discipliné, lui, c'est numéro 1 ou rien, en fait. Ça sert à rien d'y aller si tu vas pas être numéro 1, en fait.
Ok.
Donc, nous, c'est dès tout petit, mentalité comme ça.
Et pourquoi t'as arrêté du coup alors, si c'est pas cette raison-là?
J'ai arrêté quoi, le ping-pong?
Le ping-pong, ouais.
Ouais, parce que je voulais être numéro 1 dans le foot. T'as vu le changement ou quoi?
Ouais. Non, mais je comprends totalement déjà. En tout cas, t'étais très ambitieux et très jeune.
Ouais.
Donc là, de retour à Roissy, tu commences à grandir et tu t'inscris dans le club de la ville. Donc, moi, je veux savoir, c'est quoi les premiers feelings? Parce que, ok, tu as des facilités au ping-pong, mais est-ce qu'au foot, c'est la même chose?
Au foot, c'est la même chose. Et il y en a plein qui pourront te le dire.
Ok.
Au foot, c'était la même chose. On avait quelque chose. Tu vois, on avait quelque chose. On nous appelait les frères d'Éric.
Exactement, ouais.
On nous appelait les frères d'Éric, moi et mon frère. Donc, si tu t'y connais et t'entends les frères d'Éric, c'est tu sais qu'il y a quelque chose. Mm-hmm. C'est aussi simple que ça. Donc, chacun de son côté, on lavait les gens, on bombardait, on était les frères d'Éric, hein, sauf dans la réalité.
Mais déjà même, là, on voit que le frère a une belle carrure. Mmh. T'étais déjà très grand, très élancé, plus jeune ?
Pas du tout.
Pas du tout ?
Pas du tout.
Chétif ?
On était pas maigre, on n'était pas gros. On était entre les deux.
Ok.
Ouais. Okay. Donc, il y a eu du travail fourni et la morphologie hein, naturelle. Ouais.
Et quels sont les... Parce qu'on a toujours ici tendance à mettre en avant les gens de l'ombre, les éducateurs, etc., qui ont décelé ton talent, là. Mmh. C'était qui ?
Belal Diallo, Brahim Tlili, Bijou Tati, ces trois noms-là, ce sont nos trois premiers coachs, tu vois, à chacun. Donc, eux, dès le départ, jouer un match sans les jumeaux, c'était impensable. Ces gens-là, ils venaient, par exemple, quand on était punis par mon père, par rapport à l'école et tout, ces gens-là, ils se déplaçaient jusqu'à chez moi pour venir parler avec mon père pour qu'on vienne jouer. Ça veut tout dire. Tu vois ce que je veux dire?
Absolument.
Donc, ces trois personnes-là, ça a été nos trois premiers coachs, à moi, Florentin et Paul. Et eux, ils étaient vraiment avec nous parce qu'ils ont vu que le niveau, il était là.
Et tu sais, depuis tout à l'heure, tu parles de ton père, déjà, paix à son âme. Hein, mais c'est important parce que tes parents ont divorcé quand tu étais petit. Mmh. D'accord? Donc, en réalité, tu n'as même pas en tête l'image de tes parents réunis, je suppose, parce que tu étais trop jeune. Mais depuis tout à l'heure, tu dis ô combien ton père était présent dans ta vie. Tu disais qu'il habitait à Roissy, ta mère aussi, donc tu as eu cette chance-là déjà.
Ouais, très important.
Tu vois?
Ouais, ouais.
Parle-nous des valeurs de ce monsieur déjà.
Ouh, est-ce que t'es prêt?
Je suis prêt, mon frère.
Ok. Non, monsieur Antoine Pogba, non. C'était lui. Je vais te donner des anecdotes comme ça que tu vas bien comprendre comment il fonctionnait, lui. Par exemple, quand il nous disait « on va faire un exercice de tir. On va au terrain, on fait un exercice de tir. » Si tu tires, par exemple, il disait « bon, 10 fois d'affilée, tu mets lucarne droite. » Tu vois ce que je veux dire ? 10 fois d'affilée, on tire dans la lucarne droite là-bas. Si tu ne mets pas les 10 d'affilée, par exemple, tu es à 6, tu loupes la 7e, tu recommences à 0. Ça, c'est la mentale de mon père. Et on a grandi avec ça. Ça c'est une des anecdotes. Je vais t'en donner une deuxième. Pour échauffer les muscles, on court, on fait des tours de terrain. Quand on est chaud, on va faire un tour de demi-terrain sur une jambe pour que les mollets ils travaillent. Quand ça brûle, on change. Tu changes de pied. L'autre, ça commence à brûler, tu remets sur celui-là qui s'est reposé et tu fais tout le tour comme ça. Voilà. Je t'en ai donné deux. Et là, t'as vite compris. Là, j'ai pas besoin de m'exprimer plus sur ça. Ça, c'est la mentale dans laquelle on a grandi. Monstrueux.
Paix à son âme, frère.
Paix à son âme. Et,
tu vois, c'est marrant parce que tu disais, ô combien il était rigoureux envers vous. Et c'est une très bonne chose. J'ai cru comprendre qu'il était professeur.
Ouais.
Il n'était pas sur vos côtes concernant le...
Quoi ? Sur nos côtes, c'était petit. Quel combat on a mené ? Non, un combat, laisse tomber. Combat de Mike Tyson.
D'accord,
non,
ok.
Non, laisse tomber. Ça veut dire que c'était un combat... lui, en tant que professeur, il faut être fort à l'école. Et nous, notre combat, on est fort au foot, mais on n'aime pas trop l'école. Donc, on fait comment ? Ça veut dire que c'était... Quand on allait chez lui, c'était la bagarre. Lui, c'était les livres d'abord. C'était pas la play d'abord, c'était les livres. Dès qu'on finissait les livres, le temps libre qui nous reste là, c'est là-bas on va jouer. Sinon, c'était pas l'inverse. Or, chez ma mère, c'était l'inverse. Combat. Non, c'était un combat. Ah, laisse tomber. Mon daron, professeur, tu t'imagines ? Lui, il est prof et nous, on est là, on veut percer dans le foot. Mais j'ai eu cette chance-là qui nous a jamais vraiment bloqués parce que même quand il nous punissait, avec les, tu vois, nous, on jouait notre jeu à appeler les coachs, il faut venir et tout, il faut venir parler avec le papa. Et il venait après nous laisser. Tu vois, il avait quand même cette gentillesse de nous laisser à la dernière minute. Mais des fois, même, il nous disait, non, il n'y a pas de match. Et le matin, c'est lui qui venait nous réveiller pour dire, allez tuer sur le terrain, là. Oh. Tu vois, t'as vu dans laquelle il était ? Ça, c'est mon père, ça. Et ça, tu peux que être motivé après ça. C'est-à-dire, on te dit, tu ne vas pas faire tout ce que tu aimes. Et le matin, c'est lui qui vient te réveiller. Allez être meilleur buteur, je veux 2 buts. Tu vois, il se réveille, il dit, je veux 2 buts aujourd'hui. Non. Laisse tomber.
C'est beau en tout cas.
C'est fort.
Et paix à son âme, frangin, encore une fois. Et frère, Tu sais, moi, je regardais des reportages ici et là, et étant petit, ta mère disait que Paul vous copiait énormément. Il voulait tout faire comme vous.
Tout.
Tu vois ?
Tout. Même, je vais t'expliquer une anecdote, tu vas rigoler.
S'il te plaît.
Tu vois, quand tu vas prendre le train, là, quand tu passes le ticket, comment t'appelles ça déjà, là ?
Le tourniquet.
Le tourniquet. Il voulait, parce que nous, on avait la force de sauter. Il a voulu sauter, il s'est mangé le sol. Tellement pour toi, un petit exemple comme ça. Tout ce qu'on faisait, il voulait faire. Sauter le tourniquet. Nous, on a la force de sauter. Toi, t'as pas encore la force, t'es plus petit. Mais tu veux quand même sauter. Mais tu as la mentale.
Totalement.
C'est ça.
Et elle disait ô combien vous étiez des inspirations, des modèles pour lui. Et d'ailleurs, même, je fais appel à ma mémoire, j'avais regardé à l'époque, je crois que c'était en 2016, un reportage sur vous. Et il était en larmes parce qu'il se remémorait tous les conseils que vous lui avez prodigués, il se remémorait son enfance, etc. Déjà, moi, je veux que tu me parles de la relation que vous aviez étant petit, s'il te plaît.
Non, la relation qu'on... En fait, nous, on a toujours été là où on allait, elle et trois frères, elle et trois Pogba. C'était les trois Pogba. C'était pas Mathias, Florentin et Paul, chacun dans son coin. C'était les trois Pogba. Eh, on va dans une équipe, il y a les trois... L'équipe des trois Pogba, c'était ça. Tu vois ? Et on le faisait jouer avec nous. Parce que lui, il aimait bien s'amuser, dribbler les gens de son âge, tout ça. On disait, hey, Polo, viens jouer avec nous, t'inquiète pas. Et techniquement, il gaspillait les gens, tu vois ? Mais c'est physiquement, il était un peu frêle, un peu maigre. Lui, il était vraiment maigre, pour le coup. Mais toujours avec nous. Dans, hey, viens, on joue un à gauche, un à droite, et lui dans l'axe 10. Frère d'Eric plus Olivier Tom. C'était ça, nous, c'était ça. C'était les trois frères, tu vois ? À la Renardière. Quand tu disais la Renardière, tu disais les trois Pogba, dans le foot. Simple. Même dans le 7-7. Donc, c'était ça.
Ah, c'est
relation unie, forte, toujours ensemble. Et jusqu'à présent, malgré tout ce que les gens disent, ça a toujours été comme ça et ça restera comme ça, arrive.
C'est ces paroles qu'on aime entendre, hein. Sache-le, mon frère. Et alors, tu es en train d'avancer en âge, il y a les spotlights sur toi, sur Flo et sur Paul, une famille de champions, j'ai presque envie de te dire. À ce moment-là, le foot, vous l'avez pris très au sérieux ?
Il y a un ami à ma mère, il vient toquer à la porte. Il vient en mode visite amicale. Il voit plein de coupes, mais coupes de ping-pong, tu vois ? Et des tournois, façon, des petits tournois de Benjamin, moins de 13, tout ça. Meilleur buteur, meilleur joueur. Troisième du tournoi, tout le tralala. Donc, il dit, mais t'as des champions à la maison ou quoi ? Elle dit, oui, ce sont les coupes de mes enfants. Ah bon ? Parce que j'ai un ami là, il est agent en Espagne et il y a des essais là, je pense, bientôt et je peux vous mettre en contact, tu vois ? C'est comme ça s'est fait, Vigo. Je te raconte la suite. Donc, ma mère a dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle, dans sa tête, c'est pas crari, oh, va signer directement. Après, son numéro au gars, elle l'appelle. Elle dit, voilà, j'ai mes deux enfants. Paul, il avait déjà signé au Havre. Paul, c'était sûr que cet été-là, c'était en juillet. Ouais, c'était en juin ou juillet 2007.
Six. C'est pas 6 ?
2007.
OK.
Ouais, 2007. Elle l'appelle, elle dit, OK, j'ai trouvé des essais au Celta Vigo, une semaine pour tes enfants. Elle nous dit ça 10 jours avant qu'on parte. Pendant ces 10 jours, tu penses qu'on fait quoi ? Moi et Flo, on s'entraîne jour et nuit. Jusqu'à la nuit, elle tombe. On tire, on va. Bon, quand s'il y a coup franc, on va tirer comme ça. S'il y a penalty, on va tirer comme ça. On répète. On court. On fait des 1 contre 1. On travaille les 1 contre 1. Maintenant, quand t'as la balle, là, faut le gaspiller comme ça. Non, on part. Boum, on tire. Putain, on a mal tiré. On recommence. Non. Pendant 10 jours. Maintenant, quand on va là-bas, on est trop près.
Et comment ça s'est passé après la suite ?
On s'installe, ils nous installent au centre de formation avec les autres jeunes et on leur demande de laisser nous au moins rentrer parce que nous on avait ramené que des affaires de foot, c'est-à-dire on n'avait pas d'habits normal. Ils ont dit non, la pré-saison va commencer là, vous pouvez pas rentrer, désolé. Donc on a dû dire à ma mère de prendre 2-3 valises en mettant nos affaires et c'est elle qui les a ramenées tellement ils voulaient pas qu'on bouge de là-bas.
Et du coup t'es resté combien de temps là-bas?
On a fait 2 ans avec Flo, parce que je suis avec Flo, hein. Tout ce que je te dis, je suis avec Flo. Oui. On a fait 2 ans, et après ces 2 ans, on a quitté chacun, et c'est là où nos carrières se sont divisées.
Mais pourquoi vous êtes parti au bout de 2 ans si vous étiez des cracks ?
Au bout de 2 ans, ils ont reproposé un contrat à Flo, mais pas à moi. Parce que moi, la première année, j'étais surclassé avec les 89. Tu vois? Et j'ai joué titulaire. La deuxième année, c'est les 91 qui viennent. Changement de coach, je joue plus. Moi, j'ai craqué. Parce que j'avais encore la mentalité parisienne. Donc, chaque entraînement, quand mon cerveau, il passait de l'autre côté, je boycottais. Mais je me tuais moi-même, en fait. T'as vu, j'avais pas encore assez de recul pour dire, en fait, tu es tout seul, là. Mais il y a un entraînement, par exemple, moi, j'étais assez costaud. Ça veut dire, il y a des moments, j'appuyais plus que d'autres. Et j'envoyais les gens dans le décor. Après, le coach, il était pas content. Parce que c'est le joueur qui jouait. Et ça a cassé un truc avec le coach. Et j'étais toujours. Et quand il y avait des blessures, tout ça, quand il me mettait, je marquais. Ça veut dire, moi, je répondais sur le terrain. Je parlais pas, je parlais jamais avec lui. C'est-à-dire, je bousculais les gens, je montrais toute ma rage sur le terrain. Que ça soit but ou bien physiquement avec les coéquipiers, mais je montrais tout sur le terrain. Je parlais pas avec lui. Tu vois? Mais ça a pas fonctionné cette deuxième année. Donc moi, j'ai décidé de partir. Et quand moi, j'ai décidé de partir, Flo, il a dit, je reste jamais là-bas tout seul. Et il est parti. Mais ils avaient proposé quelque chose à Flo.
Ok. Ouais. Pour passer pro ?
Pour passer pro. Mais c'était long. C'était 3 ans stagiaire et 2 ans pro. Flo, il voulait 2 ans stagiaire et 3 ans pro. Ils n'ont pas voulu. On a pris nos bagages et on est parti.
D'accord. Donc, du coup, rétro-pédalage, tu reviens à Roissy.
Ouais.
Tu joues dans le club de local ?
Non. Entre-temps, je fais des essais. Je fais des essais au Kaiserslautern. Deuxième division à l'époque, allemande. Et tout se passe bien. J'ai jamais autant marqué. Bah, tu vois, l'essai que j'ai passé au Celta Vigo, j'étais 3 fois plus fort. J'ai jamais mis autant de buts dans une période d'essai. Jamais. De toute ma vie. Tout était bon. Après, il y a eu problème de je pense, commission, tout ça. Après, je peux pas te dire. J'ai pas envie de trop moins dire n'importe quoi. Je sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais j'ai pas signé là-bas. Et pour moi, c'était à cette époque-là la plus grosse déception. J'ai dit, c'est pas possible qu'on prenne pas. La semaine que j'ai faite là, c'est pas possible, en fait. Et j'ai pas signé là-bas. Et ça, c'était, on m'a dit ça vers mi-août ou début août, comme ça. Tous les clubs, ils ont déjà signé, ils ont déjà repris, tout ça. Ça veut dire, je suis parti là où il restait de la place, à Quimper. Là où je jouais avec Riyad
Mahrez. Exactement, là-bas. Justement, moi, quelques années plus tard, j'ai appris que t'as croisé le chemin de Riyad là-bas. Vous avez même vécu ensemble, je crois.
On a vécu ensemble dans le même appartement.
D'accord. Ouais. Raconte-moi déjà ce passage et cette étape de ta vie, à savoir Quimper. Là, tu vois que Flo est en train de signer pro.
À Sedan.
Exactement. Mm. Pardon et merci pour la précision. Paul est à Manchester.
Mm.
Et toi, tu es encore en train de te chercher, entre guillemets. Déjà, raconte-moi ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là, s'il te plaît.
Là, dans ma tête, franchement, c'est, comme je t'ai dit, c'est la plus grosse déception à cette époque-là qui arrive dans ma tête. Parce que moi, comme je t'ai dit, tous les essais, tous les trucs, ça a toujours été good. Tu vois, je connaissais pas encore cet échec-là. Là. C'était un petit échec, mais pour moi important. Tu vois, parce que là, c'est une étape, le passage professionnel, c'est une étape très importante dans le monde du football. Ça veut dire, je me suis dit, je suis en train de perdre, j'ai perdu 1 an. Mes frères, ils ont signé, et moi, j'ai perdu 1 an. Dans ma tête, tu vois, je me dis ça. Je me dis, ok, c'est pas grave. Si ça doit se passer comme ça, ça se passe comme ça, on fait le boulot et on remonte, tu vois. Donc, je vais là-bas. Et j'y vais à, comme ça, en boudant. Tu vois, je suis né à Quimper, mais je boude. Je dis, ma place, elle est pas là, en fait. Mais bon, après, avec le temps, t'es obligé de t'y faire. Tu vois, je suis obligé de m'y faire. Et je me blesse. Je me blesse à la cuisse, à un moment donné. Et ça a plombé ma saison. Au début, je jouais. Après, sur la cuisse, elle arrive vers janvier, comme ça. Et c'est les moments importants pour se faire voir. Janvier à mai. Tu vois, et ça a ma saison, c'est-à-dire presque saison blanche. Je fais la première partie, ça sert à rien. En vrai de vrai. Ça sert à rien. Ça juste à t'acclimater où, là où t'habites, à tes joueurs et tout. Et la deuxième partie de saison, c'est là où tu dois éteindre pour une possibilité de transfert. Tu vois? Et cette deuxième partie de saison, je joue pas trop parce que je suis blessé. Donc je me dis, année nulle. Tu vois? Donc, après ça, je me dirige vers l'Angleterre. J'ai un essai dans un club de Ligue 1. C'est-à-dire 3e division anglaise là-bas, à Bury, club à côté de Manchester. Je vais me rapprocher du petit. Donc je vais là-bas, je vais à Bury, je fais une semaine d'essai, je crois, et ils me disent on aime bien, on veut le revoir et tout. Je dis il n'y a pas de jeu, on veut le revoir. C'est soit une semaine. En une semaine, vous ne pouvez pas voir des qualités de quelqu'un? Non. Je suis pas d'accord. En deux jours, j'ai réussi. En une semaine, j'ai réussi à Kaiserslautern. Ça veut dire, je connais. Faut pas venir me raconter des cracks ici. Donc, je vais là-bas. Et entre-temps, dans cette semaine, je joue contre Wrexham. Je joue contre Wrexham. Je marque Pays de Galles. Et à l'époque, 5e division anglaise. C'est-à-dire deux divisions en dessous de là où je suis, en essai. Je joue contre eux, je les éteins, je marque et tout. Et le coach, je te jure, le soir même, il appelle mon agent. Il dit, si moi je le veux, il vient demain, on signe. Moi, faut pas me dire ça deux fois. Il dit, t'as dit quoi? Il a dit quoi là? Mets le haut-parleur là, tout de suite. Il a dit quoi? Il vient demain, on le signe. On y va. J'ai pas cherché à comprendre 5e division, 8e division. C'est professionnel? Oui, on y va. Boum, c'est comme ça que j'ai atterri avec ça.
Et tu disais 5e division. Mais c'est quoi le feeling? Parce qu'effectivement, tu passes pro, mais de l'autre côté, c'est pas quand même une division qui est...
C'est pas la division où tu veux atterrir dans un premier contrat.
Exactement, exactement.
Mais c'est là où ma première force mentale est arrivée. Je me dis, tiens, si tu recules de deux divisions, hein, mais t'es pro, tu regardes quoi? C'est là où ma tête a commencé à se poser les bonnes questions. Tu regardes quoi? Le contrat professionnel ou la division où tu es? J'ai dit, je regarde le contrat professionnel. Tu vois, j'ai beaucoup, moi, à cette époque-là, j'ai beaucoup de questions à moi-même. Tu veux faire quoi? Tu veux être pro ou tu veux jouer en première division? Les deux, dans tous les cas, c'est pro. Tu veux être pro en 5e division? Tu veux signer ton premier contrat pro en 5e division? Ou tu veux absolument signer dans un gros club ou comme ça, on te voit partout à la télé, mais c'est quand même professionnel? Tu choisis quoi? J'ai dit, je choisis Wrexham. Pourquoi? Parce qu'ils me veulent. Ils sont venus me chercher. Ils ont toqué à ma porte. Moi, je vais là où on vient me chercher, là où on me veut.
Et en termes de salaire, on est comment?
À cette époque-là, je suis à 300 pounds la semaine, je crois. Ça veut dire, ouais, je suis à 1200 pounds. 1200 ou 1300 pounds avec des primes. Tu vois, 1400, allez, 1005 max, avec toutes les primes de match et tout. Mais tu as 1005.
Est-ce que le jeu en valait la chandelle?
L'Angleterre, moi j'aimais bien l'Angleterre à l'époque. Tu vois, moi mon rêve c'est la première ligue. Et je me dis, ok, là je suis en 5e division, le club il me veut, je vais jouer. Ça il me l'a garanti. J'ai juste à montrer sur le terrain ce que je lui ai montré et je vais jouer. J'ai dit, on y va. C'est combien le contrat? Premier contrat pro, 1500, il loue le papier. Chut, on a gratté le papier. Le reste là, c'est à moi de jouer. C'est tout.
Ok.
Ouais.
Et t'avais quel âge à ce moment?
19 ans.
Ok, très bien. Et moi, je veux savoir cette fois-ci, comment vous voyez au quartier? Parce que dans la fratrie, les trois garçons sont passés pro. Mmh. Les regards commençaient à changer déjà?
Les regards, ils étaient plus dans la fierté qu'autre chose.
Ok.
Le quartier était fier, la ville était fière. Donc, c'était que du bon. Voilà, que du bon. Quand on revenait pour les vacances et tout, tout le monde nous attendait en mode, tu vois, on a gagné, on revient avec une médaille et tout. C'était fierté de ouf. Ouais.
Et t'es à Wrexham et pas très loin de chez Paul finalement, qui était à Manchester.
Je vivais avec lui.
Et la maman.
Et la maman. Important.
Exactement. Donc, moi, je veux savoir déjà, parce que vous étiez là, tu étais joueur, mais tu faisais aussi office de conseiller, j'ai presque envie de te dire, de Paul.
Ouais, mon rôle de grand frère.
Exactement, mon frère. Donc, toi, et c'est important de le préciser, parce que tu le dis depuis tout à l'heure, etc. Ouais. Mais Paul, ça ne se passe pas trop bien pour lui. Apparemment, c'est même toi qui lui as suggéré d'aller à la Juve.
On y arrive. Vas-y, je te laisse continuer.
D'accord. Déjà, moi, je veux que tu me parles de cette étape de ta vie parce que là, tu as pensé à lui alors que vous étiez réunis. Dis-moi tout, s'il te plaît.
Donc, à cette époque-là, comme je t'ai dit, je vivais avec lui. Et lui, il avait les rêves de jouer à Old Trafford, Cristiano, Ferguson, tous ces noms-là. Ça fait briller ses yeux. Mais moi, je suis un mec de la réalité. Je suis pas dans les rêves ou virtuels. Je suis dans la réalité. Ok, tu rêves de Manchester. Mes premières questions, c'est, tu joues? Ok, t'as 17 ans à l'époque. À cette époque-là, c'est pas tout le monde qui joue. Nanana, y a pas, c'est pas la même époque que maintenant. À 17 ans, ils disent que tu vas jouer. Ils te font plein de promesses. Tu vas jouer, nanana, nanani, nanana. Beaucoup de parlotte, mais zéro action. Moi, je suis dans les actions. Ne raconte pas tes cracks. Action. Tu joues, oui ou non? Non. OK. Ils t'ont promis de jouer? Oui. Tu joues? Non. OK. Maintenant, là où j'ai vraiment craqué, il n'y a plus aucun milieu de terrain disponible. Plus aucun. Sur le banc, titulaire, dans les tribunes, personne. Plus personne n'est là. C'est le moment de le mettre. On est d'accord jusqu'à là. Non. Ils ne le mettent pas et ils mettent un latéral au milieu de terrain. J'ai dit, je l'ai posé ça comme ça sur la table. Promesse de te mettre sur le terrain à Old Trafford. Action, mettre un latéral à ton poste. Réalité. Pas rêve. Là, on est dans la réalité. Tu penses que ça, c'est bon pour toi, ça? Il a dit non. J'ai dit, ben voilà. Tu prends tes clics et tes claques. La Juve, ils viennent, parce qu'ils savent que c'est sa dernière année de contrat. La Juve, ils viennent, ils toquent à la porte. Lui, il ne voulait pas partir. Il ne voulait pas partir. Je suis monté dans sa chambre. Je lui ai mis des punchlines dans la tête. Direct. Et Ferguson, il est venu. Ça, ce n'est pas des mensonges. Il est venu à la baraque et je lui ai dit, droit dans les yeux, « You don't respect my brother. » C'est la vérité. Et il y avait Patrice Evra et il le confirme dans son livre. Je lui ai dit, vous respectez pas mon frère. Voilà pourquoi il va partir. Mais non, il doit être patient, you need to be patient. Mais patient jusqu'à où? Il y a plus de milieu de terrain et vous mettez un latéral. Et vous voulez qu'il soit patient sur ça. Quand ils vont revenir là, est-ce que vous allez le regarder même? Parce que les blessures, ça revient. Tu te blesses, après ils reviennent tous. Et s'ils reviennent tous en même temps, vous allez regarder? Mon frère, vous allez plus le regarder. Si vous le regardez pas quand il y en a plus, vous allez regarder quand tout le monde est là. J'ai dit non. Il va partir. Et je lui ai expliqué aussi pourquoi il va partir. Parce que les clubs italiens, en général, c'est les anciens qui jouent. Mais les anciens, à un moment donné, les anciens sont plus proches de la sortie que les jeunes. Ça veut dire, toi, t'es jeune, là-bas, il y a beaucoup d'anciens à son poste. Tu patientes un peu, tu travailles, et ta place, ça va être plus accessible qu'ici à Manchester. Va là-bas, et tu m'en diras des nouvelles. Tu vas voir. Il voyait les Carrick, les Fletcher comme des grands joueurs comme ça. J'ai dit, entraîne-toi avec eux 2 semaines et tu reviens me voir. Il l'a fait, il est revenu vraiment, il a dit, mais en fait, voilà, comment ça s'est passé.
Voilà, là, il arrive à la Juve, mais tu sais, entre Paul et toi, il n'y a que 3 ans d'écart. Et tu sais, parfois, nous, on est des Africains et il y en a qui abusent du droit d'aînesse. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Tu sais, moi, il y a une fois, j'avais regardé un reportage, c'est toi qui parlais. Et tu avais dit, Paul, c'est mon petit. Si je lui envoie acheter une canette, grand comme il est, il va se lever, il va acheter sa canette, il va revenir et il va me dire merci. Tu vois, moi, j'ai trouvé que ses paroles étaient déplacées. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, en vérité, quand tu atteins un certain âge, c'est juste des frères. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Qu'est-ce que tu as à dire, toi, par rapport à ça?
Non, c'est vrai. Après, ça, plus tu prends de l'âge, plus cette expression ne peut pas être aussi vraie qu'elle l'est. Tu vois? Mais dans la jeunesse, 3 ans d'écart, c'est beaucoup.
C'est vrai.
Mais quand tu grandis, tu ne peux plus te permettre d'avoir ces propos-là. Je suis d'accord avec toi, 100%.
Donc, et c'est très bien de faire amende honorable, frère. Vraiment, parce que moi, ce petit passage m'avait un peu bridé, m'avait un peu... m'avait fait quelque chose un petit peu. Je me suis dit, c'était déplacé. Surtout le dire face caméra, je pense que ce n'était pas nécessaire. Mais Paul est en train d'avancer. Pareil pour Flo, qui est en train d'avancer, qui passe pro, etc. Ils ont des salaires conséquents. Toi, tu es en train de changer de club constamment. Est-ce que ça ne te frustre pas? Parce que vous étiez soudés et vous l'êtes toujours, et je suis ravi de l'entendre. Mais tu vois que tes deux frères sont en train de s'accomplir d'un point de vue professionnel, mais aussi d'un point de vue économique. C'est humain, et à un moment donné.
Je vais te dire la vérité.
Dis-moi, mon frère.
À aucun moment, ça me frustre. Ça me booste plus qu'autre chose. Donc, ce n'est pas le mot frustré que je vais utiliser, c'est booster. Donc, je me dis, c'est un challenge. Je me challenge moi-même. Regarde, t'es deux refs. Moi, je suis le plus grand fan. Si je me déplace pour aller voir leur match, je me déplace sans leur dire même. Et ils pourront te le confirmer. Donc, j'arrive là-bas, je suis leur plus grand fan. Tu vois, ça me booste. Je dis, moi, j'ai commencé tout en bas, mais j'arrive, les gars. Venons, on se booste. Il n'y a pas de problème, j'arrive. Moi, c'est comme ça. Aucune frustration, rien du tout. Ça me booste plus qu'autre chose.
Et comment toi, tu te sens même en tant qu'homme, le fait de changer constamment de club? Chaque saison, tu changes de club, etc. Comment tu te sens, même pour t'épanouir, même pour la stabilité? Comment ça se passe dans ta tête?
Ben moi, t'as vu, moi, ma mentale, je vais t'expliquer, c'est simple. Là où on me veut pas, je prends mes clics et mes claques. À cette époque-là, j'ai pas cette patience de dire non, faut que je me bouge. En fait, faut que j'aille chercher qu'on m'aime ou qu'on me veuille. Moi, ma mentale, c'est pas ça. C'est si je te veux, je te le montre, je te le prouve. Si je vois pas ça, moi, c'est dans les actions. Tu peux pas me dire, j'ai des promesses de qu'on faisait à Paul, là. Tu vois, les promesses de tu vas jouer. Non. Tu vas jouer, mets-moi sur le terrain. Me dis pas. Donc, moi, si je vois pas dans les actions, je bouge. J'ai dit, et je le dirai toujours, si je devais faire 35 clubs pour aller dans chaque club où on me veut, je les aurais fait. C'est mauvais pour moi? Oui, mais je le fais. Je préfère avoir ma paix intérieure en faisant 35 clubs qu'en faisant 2 et être frustré tous les jours.
Mais est-ce que là, c'est pas ton ego qui est en train de te dompter?
Non. Non, parce que vous le voyez du mauvais côté.
Dis-moi tout alors.
Le bon côté des choses, c'est t'épanouir dans ta passion, dans ton football. Moi, je vois que ça. Si je dois bouger pour aller m'épanouir, je préfère ça que de rester frustré, par exemple, 3 ans, 4 ans sur le banc à te promettre mons et merveilles. Je peux pas.
Mais là, c'est l'aspect sportif, mais l'aspect économique dans tout ça. Comment tu te sens? Parce que tu...
Je suis bien.
Ouais.
Moi, j'ai pas besoin de... Par exemple, j'ai pas besoin de 15 000 euros pour être bien. Moi, tous mes salaires, je vais te le dire, on parle français, on est venu parler français. Tous mes salaires, ils ont jamais dépassé 10 000 euros de toute ma carrière. Tu vois, je te le dis. Tu m'as déjà vu pleurer pour ça? Tu m'as déjà vu me plaindre? Non? Et je ne vais jamais me plaindre. C'est Dieu qui donne. Donc, si je dois faire, comme je le répète, si je devais faire 45 clubs, je les aurais fait. C'est mal vu dans le football, il n'y a pas de problème. Mais j'assume. Je vais à gauche, on me veut là-bas, je vais jouer. Si je dois même descendre de division pour te dire là où je vais, je dois descendre de division pour accomplir ma passion et jouer sur le terrain, je le fais.
Mais comment t'expliques que tu es changé autant de fois de club? À chaque fois, c'était les conflits avec les entraîneurs?
Non, c'est les blessures. Parce que quand tu reviens de blessure, t'es pour eux, t'es plus au même niveau. Ils veulent plus de toi. Et tu dois bouger. Parce que à partir du moment où t'as une grosse blessure, c'est que des 1 an. Parce que les gens, ils doutent. Tu signes un an par là, ils doutent. T'as pas fait la saison que tu devais faire, même pour toi. Hein. Parce que c'est dur après de revenir enchaîner les matchs et tout. Tu peux pas enchaîner les matchs. C'est-à-dire, à partir du moment où tu te blesses la première fois, tu as des petites blessures à chaque fois. C'est-à-dire, tu fais 7 à 10 matchs, hop, petite blessure, ça te ralentit. Tu reviens et tu regardes à la fin 20 matchs, 17 matchs. Donc, tu es obligé de bouger parce qu'il dit, il n'est pas encore revenu à son meilleur niveau. Et aucun club te redonne cette chance-là. Aucun. C'est-à-dire, je dois bouger. Quoi, je vais rester ouais. Là, je vais rester chez moi? Non, je bouge. Voilà pourquoi j'ai fait autant de clubs. Et ceux qui se blessent, ils le savent. Ceux qui se blessent pas autant, ils peuvent pas comprendre ça. Mais ceux qui se blessent autant que moi, je me suis blessé, et ça, ils le savent, ça. C'est des un an. Tu vas faire quoi? Tu vas pas les forcer à te donner 3 ans de contrat.
C'est vrai.
Allez là.
En tout cas, merci pour cette précision parce que tu viens de m'apprendre quelque chose. Mais en même temps, t'étais trop costaud.
Hein?
Tu devais te blesser, ouais, tu vois.
Trop de muscles, c'est pas bon, si
ouais,
on m'a dit.
C'est vrai. En tout cas, Frangin, je salue ta franchise sincèrement. Et j'accélère un petit peu dans le temps. Coupe du Monde 2018, tu vois. Paul, bon déjà, juste avant, il avait crevé l'écran à la Juventus. Ouais. Vraiment, c'était incroyable, incroyable. Et avant de faire un flashback déjà sur la Coupe du Monde, moi, je veux que tu me parles cette fois-ci de l'avant Coupe du Monde 2018, hein, bien sûr, à savoir quand Paul crève l'écran à la Juventus. Paul est une marque, la marque Pogba même, j'ai presque envie de te dire, avec les frères qui sont sur le côté et la maman qui est au centre de tout ça. Moi, je veux savoir c'est quoi le feeling à ce moment-là, parce que vous êtes presque sur le toit du monde, j'ai envie de dire. Mais il n'y a pas que des heureux dans tout ça.
Ouais.
Est-ce qu'à ce moment-là, vous l'avez ressenti? Si on doit se dire les choses.
Ouais, ouais. Honnêtement, de notre côté, on ne l'a pas ressenti. Hein. Il y a des gens qui ne sont pas contents pour nous. Mais nous, regarde, nous, on est des positifs. Attitude. Ça veut dire on va regarder que le bon. Il devait avoir ces personnes-là, mais on ne le voyait pas. On ne le voyait pas forcément. Il devait en avoir, parce que nous, on est très joyeux, parfois naïfs, mais on ne voyait pas ça. On ne voyait pas cette négativité. Il devait en avoir, mais on ne la voyait pas. Nous, on était nous-mêmes. Des danses à trois, des ambianceurs, des leaders sur le terrain, des exemples pour l'union de la famille, parce que c'est pour ça qu'on est reconnu.
Bien
c'est
sûr.
La vérité. Donc, nous, on voyait que ça, nous. Mais on voyait que
tu,
ça, nous.
Tu vois, le papa était présent à ce moment-là, il avait de la bouteille. Pareil pour la maman. Y a pas des gens qui vous ont quand même mis en garde en se disant, les gars, doucement dans votre succès, parce que quand vous envoyez du shine, du love, etc., malheureusement, il y a des gens qui vont bien comprendre le message. Mais pas tout le monde.
Pas tout le monde. Non. Il n'y a pas de « arrêtez-vous, nous, on y va, nous ». Pourquoi on va s'arrêter ?
En fait, c'est pour reformuler ma phrase et pour que tu comprennes mieux, c'est que moi, à titre personnel, j'ai aimé vous voir comme ça, frère. Frérot, en plus, vous êtes des ambianceurs, des danseurs, des gens joyeux. Et on a besoin aussi de voir de voir la personnification de la réussite, en vérité.
Ouais.
À savoir... Vous venez du ghetto par votre travail, parce qu'on ne vous a fait aucun cadeau, vous avez réussi à atteindre les sommets. Et ça, c'est noble. C'est même enseigné. Mais malheureusement, quand tu brilles trop, tout le monde ne se réjouit pas de ton succès, frère.
Ouais.
Et en fait, comme ce succès-là, il est nouveau pour tout le monde, moi, je me dis... J'ai peut-être une image arrêtée ou peut-être une vision arrêtée en me disant qu'il y a quelqu'un qui a quand même pu les mettre en garde. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas du tout votre cas?
Franchement, non. Peut-être c'était le cas, mais nous, on le voyait pas comme ça.
D'accord.
Tu vois, on n'a pas vraiment calculé ce point-là. Nous, on est juste là, nous. T'as vu, y a des choses qu'on peut pas réaliser parce qu'on est dedans. Vous, les gens de l'extérieur, vous pouvez nous dire des trucs que nous, on voit pas parce qu'on est dedans. Tu vois? Donc, c'est compliqué.
À ce moment-là, la maman est à Roissy encore ?
Ouais. 2018, non.
Non, même un peu avant.
Ouais,
toutes
nous,
les années.
Non, on a bougé à Bussy-Saint-Georges en 2012.
Ok.
Ouais, en 2012.
Ok. Et tu sais, si je me permets de te lancer là-dessus, c'est que ta mère a relaté une époque de sa vie où il y a des gens qui l'avaient confondu avec elle, ou du moins avaient confondu une personne avec elle. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est là où toutes ces choses-là peuvent déjà... vous mettre en alerte en se disant « Oulala, il faut qu'on commence à faire attention. »
Ah, t'as été au courant de ça, toi? Ah ouais, bien.
Ouais, tu vois ce que je veux dire.
C'était arrivé dans mes oreilles, j'ai dit « Oh, ok. »
C'est pour ça que je me permets de te lancer sur ça, frère. Donc, toi, t'es en train de... Voilà, juste avant, Paul crève l'écran à la Juventus, déjà. C'est quoi le sentiment qui t'anime? Parce que moi, j'ai l'impression, et arrête-moi si je me trompe, mais plus les années passent, et plus j'ai l'impression que ta carrière de footeux, c'est plus un loisir qu'autre chose. T'es plus là en tant que conseiller, en tant que confident, en tant que limite agent, même s'il n'y a pas la
statut,
licence.
Ouais.
Exactement.
Le statut d'agent, moi, non. À cette époque-là, je me cherche, 2012, je suis en Angleterre, c'est mes meilleures années. C'est-à-dire là, de 2012 à 2016, 2017, c'est là où je me fais ma plus grosse blessure, le tendon d'Achille. Je suis en pleine ascension, moi. Souviens-toi que je viens de la 5e division.
Ouais.
Et en 2017, je suis en première division hollandaise. Donc, je suis en pleine ascension. Je suis en plein dans mon élément, là. Donc, non, chacun est concentré dans sa carrière. Chacun fait le boulot sur le terrain. Et on grimpe comme ça. Chacun, à notre échelle, on grimpe petit à petit. Tous. Flo, il enchaîne 5 saisons à Saint-Etienne. 4 ans d'affilée, Europa League. Donc, chacun est dans sa carrière. Chacun bosse. Pour de vrai. C'est ça.
Et Frangin, voilà, quand Paul devient une marque, est-ce que automatiquement ça a créé des possibilités pour les autres membres de la famille?
Pour mes sœurs, tu parles de mes sœurs.
Exactement, ben, pour l'ensemble de la famille.
Bah, réellement, non, parce que elles ont pas bossé avec nous, ou, tu vois, quoi, elles sont pas venues bosser avec nous, que ça soit dans le foot ou. Après, il y a eu des discussions de projet, oui, mais de job professionnel, après ça, non. Non.
D'accord.
Ouais.
Donc, à ce moment-là, c'est Paul qui brille de mille feux et chacun est dans sa carrière.
Chacun est dans sa carrière.
D'accord, très bien. Et Frangin, il y a eu la Coupe du Monde 2018 où on te voyait dans les tribunes en train de supporter d'animer. Ton frère, hein, ouais. En train d'animer. Et c'était très beau, mon frère. Donc déjà... Là, en tant que grand frère, comment on se sent parce que tu prodiguais des conseils, tu lui parlais énormément, etc. Et là, tu vois que tout le monde le plébiscite, tout le monde est unanime pour dire que c'est l'un des tout meilleurs. Mm-hmm. Comment toi, tu te sens déjà?
Fierté. Fierté, jusqu'à je ne sais même pas où. Une fierté incroyable. Je me dis, ça, c'est mon petit ref, ça. C'est mon petit ref, il est là, on est champion du monde, parce que ce n'est pas il, c'est on. Et je le répéterai toujours, c'est on est champion du monde. Parce que, qu'ils le disent ou pas, on est champion du monde. Si t'es champion du monde, on est champion du monde. Si tu perds, on perd. Si tu gagnes, on gagne. C'est simple. Ça veut dire, on a fait tous les vols. On a fait les vols. On a fait des dingueries. Des fois, on rentrait. Nous, on faisait des allers-retours. C'est-à-dire, on prenait l'avion. Ils jouaient le match. On rentrait. Il était 5 heures du matin. Donc, quand tu le vis comme ça, t'es champion du monde aussi. Avec tous les parents, là. Tous les autres parents qui étaient dans l'avion, qui rentraient avec nous. On est champion du monde. Champion du monde, fierté incroyable. On se dit, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Sur le terrain, nous, on l'a fait en dehors. Donc, on l'a fait. Tu vois? Donc, non, c'est indescriptible. Une fierté indescriptible.
Et c'est très beau ce que tu dis. Mais moi, je vais nuancer un petit peu tes propos. Et tu vois, il y a Ibra qui disait que parfois, l'entourage mettait un peu trop de pression. Et quand il parlait d'entourage, il parlait des parents. Il parlait des frères et sœurs en disant que, hey, vous êtes juste des accompagnants ou des accompagnateurs, à savoir supporter votre frère ou votre enfant, c'est déjà énorme. Mais ne vous improvisez pas comme agent, comme conseiller, comme mentor, comme ceci, comme cela. Toi, déjà, qu'est-ce que tu as à dire? Parce que il a pas nommé des gens explicitement, mais tu peux t'accaparer cette histoire.
Ouais, totalement. Il a raison. Il y a des gens qu'ils n'arrivent pas à gérer ce succès, tu vois. Ils commencent à se prendre pour telle ou telle personne qui ne sont pas. Et c'est là où des litiges ou des problèmes peuvent arriver. Reste à ta place. Restez à votre place. Moi, si j'aurais voulu vraiment, j'aurais pu arrêter le foot et dire, vas-y, je gère ta carrière. Mais je ne l'ai pas fait. C'est là, c'est réel. Restez à votre place.
Et pourquoi, comment t'expliques que tu vois, même des années plus tard, la Coupe du Monde 2022, on a parlé de soucis de comportement. Tu vois, entre, par exemple, toi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la mère d'Adrien Rabiot, on a dit qu'il y avait des griefs dans les... Comment t'expliques tout ça? Parce que, d'un point de vue extérieur, les gens disaient que tu prenais beaucoup de place dans les tribunes. Tu faisais trop de singeries. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, tu viens tordre ces rumeurs. C'est faux ce que je dis?
C'est totalement faux. Je l'ai jamais parlé.
Mais comment t'expliques que ton nom est ressorti comme ça?
Parce que je m'appelle Pogba. C'est facile. Et ça fait cliquer les gens. C'est tout. Je ne l'ai jamais parlé à la mère de Rabiot. Jamais. Je fais des singeries dans les tribunes. Ça, c'est eux qui appellent ça comme ça. Moi, j'appelle ça animé. Si vous venez au stade pour rester assis et boire votre bière, ça, c'est votre problème. Moi, je viens au stade, j'anime. Sinon, je ne viens pas au stade. C'est simple. Donc, ils appellent ça singerie, dinguerie, tout ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de problème, j'assume. Je viens au stade, j'anime, il y a mon petit frère sur le terrain, j'anime, je supporte pour de vrai et je rentre chez moi. Chacun sa manière.
Tu vois, si on doit mettre les deux pieds dans le plat, 2022 ou 2023, je ne sais plus, mais il y a eu l'affaire que tout le monde connaît. Malheureusement, où on t'a vu... sur les réseaux sociaux, etc. Bon, tu sais, il faut savoir, je te le dis d'emblée, c'est que nous, on n'est vraiment pas là pour donner de la confiture à des porcs. Et je le dis vulgairement, frérot, parce que t'es un frère, parce que Paul, c'est un frère, et parce qu'il y a des gens qui pleurent à côté de ça. Mais moi, je veux savoir, frérot, qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour venir sur la place publique et parler comme ça?
Je peux pas trop en dire aujourd'hui, mais quand tout ça se termine, si tu veux, on reparlera de ça en face-to-face.
Très bien.
Et comme je dis toujours, la vérité prend l'escalier. Donc, je m'arrête sur ça. Mm-hmm. Et puis, on en reparlera en temps et en heure.
Mais tu sais, il y a toujours, c'est faux ce que je dis, mais parfois, il y a des griefs entre les joueurs de foot et certains entourages, etc. Tu sais, dernièrement, j'avais regardé un reportage sur Di Maria et il disait que lui rêvait d'un retour à Rosario dans son club natal, mais malheureusement, je pense que tu es au courant même de cette histoire, malheureusement, il n'a pas pu parce que il y avait trop de personnes néfastes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je veux savoir quand il y a des conflits comme ça parce qu'il y a beaucoup d'argent, parce que c'est un monde de fous. Pourquoi les choses ne se règlent pas en privé?
Ça pourrait, ça se fait. Mais là, c'était un niveau où... c'était plus que ce que les gens pensent. Tu vois? Ça a dépassé la réalité. C'est pour ça. Et...
De toute façon, même je vois à travers ton regard, etc., je vois que tu es pris par l'émotion. Mais sache une chose, mon cher frère, c'est que l'objectif... Et je vais me répéter une énième fois, c'est pas de te mettre encore plus dans les dramas. Sinon, la discussion, on l'a pas, toi et moi. Tu vois ce que je veux dire? Sache-le, tu le sais, frère, tu le sais. Mais moi, je veux savoir dans tout ce qu'on fait, parce que, tu sais, toi, t'es un croyant. On a vu, pareil pour Paul, pareil pour Flo. Et tu sais, toi comme moi, on a perdu nos pères. Paix à leur âme.
Ouais, paix à leur âme.
Et on sait que les mamas se fragilisent également. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas facile. Moi, je veux savoir, même si j'ai bien compris que tu ne peux pas donner trop d'éléments parce que il y a encore une affaire qui est en cours, mais je veux savoir qu'est-ce qui te passe par la tête et comment tu te dis, je vais l'exposer sur la place publique. C'est ça, moi, qui m'intéresse.
À cette époque-là, c'était ma seule issue. Je peux te dire que ça, c'était mon seul moyen d'exprimer mon ressenti sur le moment même. C'était mon seul moyen. Sinon, j'allais exploser intérieurement. C'est tout ce que je peux te dire.
Et tu sais, pourquoi je te parle des liens du sang, etc., c'est parce que tu vois tout le temps, dans chaque rappel, dans chaque ceci, cela, on nous dit ô combien les liens du sang sont sacrés. Est-ce que parfois tu te dis que certaines actions peuvent être irrévocable.
Ça n'en fait pas partie. Cette action-là n'en fait pas partie pour moi. Parce que tout le monde fait des erreurs. Et le plus important de tout ça, et après je vais m'arrêter là, il faut savoir tous les tenants et les aboutissants avant de parler sur une action ou sur quelque chose. Quand vous aurez tout ça, peut-être vous allez peut-être me comprendre ou peut-être pas, mais au moins ça sera dit. Voilà ce que je peux dire sur ça.
Mais il n'y a pas de souci, frère. Et je ressens ta peine, hein. Et tu connais ton gars, tu sais très bien qu'on est vraiment dans un discours pour fédérer mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, tu sais, parfois, et là, je vais rétro-pédaler et je vais te relancer sur le droit d'aînés. Parfois, on se dit, ouais, mais c'est l'aîné qui a forcément raison. Mais moi, je dis, c'est pas tout le temps ça. Est-ce que là, avec le recul, tu peux te dire que t'as fauté?
J'ai fauté. À 200 000%, je te le dis. Face to face. Ouais. Ouais, j'ai fauté.
Et c'est noble et c'est très juste de te reconnaître. Tu lui as demandé pardon, refrain?
Je préfère garder ça.
Non, mais non.
Juridiquement, je ne peux pas parler. Je suis interdit de parler avec mon frère. Donc,
ok.
Tu vois?
D'accord. Et je respecte alors dans ce cas. Pour rester dans tout ça, frangin, moi, je veux savoir. Comment tu t'es senti juste après tout ça?
Super mal. Super triste. Super mal, super triste. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois? Mais il m'a fallu ce petit temps. Tout le monde a ce temps, tu vois, a besoin de ce temps-là. J'ai eu besoin de ce temps-là pour réaliser. Mais j'ai alhamdoulillah, c'est venu. Tu vois?
Et tu sais, on parle pas de flow dans tout ça. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Parce qu'on nous dit tout le temps que entre les jumeaux, c'est fusionnel, le lien, il est très fort
et indestructible. Il m'a dit la même chose que je suis en train de te dire là.
Est-ce qu'il t'a boudé?
Il m'a boudé fort. Il n'y a pas que lui. Mes tantes, mes trucs, tout le monde m'a boudé. Et c'est normal.
Donc, le lien était quasi rompu avec ton frère jumeau?
Non.
Non, mais il a boudé et boudé. Mmh.
Non, on a toujours communiqué, mais il m'a fait savoir ce qu'il pensait de cette action. Normal, il avait raison.
Pareil pour tante Lucie.
Pareil pour oncle Lansana. Tout le monde. Hein? Tout le monde. Sans exception.
Donc, là, t'étais livré à toi-même totalement?
Ouais.
Plus aucun soutien?
Si, le soutien, je l'ai toujours eu, moi. Parce que les gens qui me connaissent, ils savent qui je suis. Ils savent très très bien. Ils savaient qu'il y avait quelque chose qui cloche. Mais ils ne savaient pas le quoi. Mais ils vont bientôt le savoir. C'est tout. Mm-hmm. C'est pour ça. Avant d'avoir... Après, il y a les... Je les appelle les moutons qui suivent tout ce qui se raconte là. Eux, je les calcule même pas. Eux, ils m'intéressent même pas. Mais il y a ceux qui essayent de se renseigner. Eux, peut-être, je peux leur donner, tu vois. Mais si tu rentres même pas dans cette direction, si tu vas pas dans cette direction, frérot, viens, discute pas, c'est mieux. C'est tout. Simple.
Mais en tout cas, tu peux comprendre que les gens étaient déçus.
Oui, oui, totalement. Mm-hmm. Et je suis aujourd'hui, avec 2 ans et demi presque de recul, frère, ils ont eu totalement raison. Mes proches, hein, je te parle. Le reste, je m'en fous complètement. Mais mes proches, ils ont eu raison. Mais ils me comprendront quand ils vont savoir ce que je peux pas dire, tu vois, aujourd'hui. Ils vont comprendre. Si tu me connais, t'as compris déjà. En vrai de vrai, ceux qui me connaissent vraiment, ils ont compris sur le moment même. Mais ceux qui ont eu des petits doutes, ils vont être renseignés.
En tout cas, je comprends bien et je sais que malheureusement, ce sujet a secoué toute une famille. Et en tout cas, j'espère de tout mon cœur que la situation s'arrangera pour toi ainsi que pour vous, frangin. Mmh. Sincèrement.
Ça va s'arranger. Ne t'en fais même pas. Le temps fait toujours son travail.
T'as totalement raison, frangin, et je veux bien te croire là-dessus. Est-ce que toi, avant cette péripétie, t'as déjà eu des démêlés avec la justice?
Jamais. Je connaissais rien du tout.
Et comment là ça se passe quand t'arrives en prison?
J'ai mûri. Enfermé là-bas dans un 9 mètres carrés.
T'étais où?
J'étais à Villepinte. J'ai mûri. Je suis devenu l'homme que je dois devenir. Il n'y a pas un jour, on ne m'a pas insulté de tous les noms qui existent. Pas un seul jour. FDP, ta-ta-ta, si-ça-si, ta-na-na, tout. Tout. On tape dans ma cellule. Comment t'as pu faire ça à ton frère, tout ça? Sachant que toi, tu sais que t'as rien fait. Mais toute la planète pense que c'est toi la tête de tout ça. Et tu dois gober ça tous les jours. Dans les nets, là, sur place, tout, partout.
On t'a sauté dessus?
Non, j'étais isolé. J'étais à l'isolement. Mais je pense que ça allait être une option, ça. Pour eux. Mais bon, j'étais à l'isolement, Dieu merci. Mais comme je t'ai dit, c'est une étape de ma vie. Aujourd'hui, c'est fou ce que je vais te dire. Des fois, je remercie Allah de m'avoir amené là-bas. C'est une dinguerie. Même moi, de le dire là, je trouve que c'est une dinguerie. Mais je dis ça avec fierté.
Et à l'intérieur même de la prison, t'as eu aucun soutien?
Si, j'ai reçu plein de courriers. Même des gens que j'avais vus une fois dans ma vie. Le soutien, je l'ai toujours eu, moi. Tu vois?
Là, je veux savoir même la famille au sens large. Mmh. Ton téléphone n'a fait que de sonner.
1 milliard de fois. Par jour, je recevais, je crois, 100. 100 appels.
Et à ce moment-là, tu savais que tu avais fait un truc de fou?
Ouais. Ouais, ouais. Ouais.
Et... Alors, t'arrives en prison, t'es isolé, Et là, tu sais même que tu as tout perdu en réalité parce que la confiance de la famille même, j'ai envie de te dire, tu as brisé quelque chose. Mmh. Et puis, même d'un point de vue professionnel, pardon, même si c'est dans un deuxième, c'est sur un second volet, mais là aussi, tu as tout perdu.
Là, je suis seul au monde. Pour de vrai, je suis seul au monde. Seul au monde. Pendant 3 mois et demi, j'étais seul au monde. Mais, comme je te dis, je devais peut-être passer par là pour remettre tous les câbles. Pour pas que ça disjoncte encore une deuxième fois. Les câbles, ils se sont resolidés, tout bien, en ordre.
Et on n'a pas assez parlé de la mama. Mmh. Parce que là, c'est terrible pour elle. Elle est tiraillée entre ses fils, etc. Comment elle était avec toi?
Elle était... Elle a sait.
Oui, mais même si elle sait,
elle était pas bien. Elle a douté, oui. Elle a douté. À certains moments, elle a douté. Et je la comprends. Elle a douté, oui. Mais elle nous a toujours soutenus tous les deux.
Ça, je suis d'accord avec toi, frère. Et d'ailleurs, une mère reste une mère. Et elle peut pas trancher entre ses enfants. Mais là, c'était tellement gros que c'était irréel.
Ouais.
Donc, moi, je veux savoir, est-ce qu'elle aussi est à bouder fortement? Parce que là, hein?
J'ai toujours été en contact avec elle.
Même en prison?
Même en prison. Ça n'a pas bougé, ça. Même en prison. Donc, ça, non. Ça bougera jamais, ça.
Madame aussi était toujours avec toi?
Toujours. Ça, je t'ai dit. Il y a les gens, il y a les proches, il y a tout le monde. Tout le monde était carré.
Tu sais, parfois, on dit toujours que... Tu vois, par exemple, Paul est marié avec une Sud-Américaine. Tu vois, quelque part, il est marié avec une personne qui ne connaît pas tellement la communauté africaine. Mmh. Et tu sais, aujourd'hui, n'ayons pas peur des mots, mais il y en a plein qui ont des paroles parfois méchantes envers nous. Tu vois ce que je veux dire, où ils se permettent de sortir pas mal d'atrocités, etc. Est-ce que voir ce genre de move ne peuvent pas confirmer certaines pensées?
Ça dépend comment tu les prends.
Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire?
Je comprends.
Parce que quand tu vois une histoire rocambolesque comme la vôtre, là, c'est tellement gros que ça peut effrayer des gens.
C'est possible. C'est possible que ça effraie des gens et je leur en veux même pas, ces gens-là. Mais comme j'ai dit dans une histoire, il y a toujours 2 versions. Ou 3. Ou 5. Écoutez tout le monde et après vous faites votre propre jugement. Simple.
Et ce serait quoi, toi, le conseil que tu préconiserais aux jeunes footballeurs ou du moins aux jeunes apprentis par rapport à toute cette histoire, à savoir quand il y a de la lumière, quand il y a beaucoup d'argent, quand il y a beaucoup d'enjeux et quand tout le monde veut sa place au soleil, qu'est-ce que toi tu dirais?
Moi je dis toujours que c'est facile à dire d'avoir soi-disant gardé les bonnes personnes à côté, mais en vrai de vrai, à quel moment tu sais si c'est vraiment les bonnes personnes? Parce que la preuve en est. Quand est-ce que tu sais que c'est les bonnes personnes? Parce que le semblant, il y a des gens, moi je pourrais pas, mais il y a des gens qui arrivent à faire semblant longtemps. Comment tu gères ça? Et moi je suis un homme qui reste sur ce que je peux contrôler. Ce que je peux pas contrôler, tu vas pas me voir là-bas. Tu vois? Maintenant tu contrôles pas comment les gens pensent. Moi je vois les actions, je suis dans le mec d'action. Du moment que tu actes bien avec moi, pour moi, t'es dans mon camp. Tu vois? Comment tu contrôles ça? Donc, garder le bon entourage, je peux le dire. Mais l'action, c'est une autre affaire. Ça devient de plus en plus dur pour moi. Aujourd'hui, c'est ça le plus dur à gérer. Est-ce que lui, il est dans mon camp? Pour de vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. C'est là où je veux en venir.
Et comment t'es dans la commune de Roissy-en-Brie? Tu retournes des fois?
Je suis le seul qui peut marcher aujourd'hui dans la ville, tranquille, sans entendre des messes basses.
C'est terrible en tout cas. En tout cas, tu vois, tout à l'heure, on parlait de Quimper, on parlait de Riyad, c'est un frère que je connais très bien
Ah ouais,
et que j'embrasse au passage.
Salam. Et... Salam, mon ami.
Voilà. Et Riyad, je pense que tu as dû croiser le chemin de son frère également, Wahid.
Oui.
Voilà, très bien. Oui. Et Riyad, très tôt, en fait, dès l'instant où il est passé pro, tout avait changé pour lui. À savoir, il s'est professionnalisé à tous les niveaux. Mmh. Tu vois, aussi bien lui que sa famille au sens large, etc. Mmh. Et Wahid, qu'on avait l'habitude de voir au quartier, on le voyait moins, etc. Est-ce que toi-même, qui avais beaucoup plus de bouteilles et d'expérience à ce niveau-là, c'est pas des choses que tu aurais pu prendre en considération?
Oui, bien sûr. Mais je vais t'expliquer une chose que les gens ne savent pas beaucoup. Quand tu es footballeur, et moi je suis le plus grand frère, c'est-à-dire il n'y a pas plus grand frère que moi, tu vois ? Je suis pas à côté. C'est-à-dire que je suis toujours à l'étranger. Ça veut dire que je n'ai pas le revenu de Riyad Mahrez. Moi, je te parle de moi, Mathias. Parce que là, on ne parle pas de mes frères, on parle de moi. Tu n'as pas la tête à... On va dire, tu n'as pas la tête à tout ce qui est en dehors du foot. À part si quelqu'un de confiance, avec qui tu as vraiment confiance, il vient et te pose un truc carré sur la table, tu dis, ouais, lui, je peux lui faire confiance sur ça. Il vient, tant qu'il ne vient pas, moi, personnellement, j'irai pas toquer à cette porte-là. Parce que j'aime pas mettre pied où je n'ai pas pied. Où je connais pas, ou truc, je vais pas faire ça. Donc je préfère rester dans mon truc que je connais avant d'aller m'aventurer dans les trucs que je connais pas. Je te parle à l'époque. Hein. Aujourd'hui, après ma plus grosse blessure, c'est là où vient cet état d'esprit. On est en 2017. Et c'est là où je commence à rentrer dans ce mood. Parce que j'ai le temps. Je peux rien faire d'autre que penser. Mais sinon, quand je suis en mouvement, je ne préfère pas. Moi, personnellement, je ne préfère pas. Je préfère rester focus. Mais aujourd'hui, avec le recul, j'aurais aimé avoir cette personne qui vient me toquer à la porte. Hey, j'ai ça. J'ai ça pour toi, pour préparer ton avenir. Mais je ne l'ai pas eu. C'est facile, tu vois, c'est facile qu'on dise « Ah, les footballeurs, c'est les footballeurs, ça. » Mais nous, on est tellement focus, on est sous pression tous les jours. On doit être plus fort que l'autre tous les jours. Tout le reste d'à côté, là, c'est un boulot aussi. Hein. Prendre rendez-vous avec lui, parler avec lui, faire un business plan, tout ça, c'est un boulot. Je ne dis pas qu'on n'a pas le temps. Mais il faut nous mettre sur la voie, frère. Avec la bonne personne.
Et tu vois, parfois, les footballeurs, toi-même, tu sais de quoi je vais parler tout de suite, mais ils sont toujours sollicités.
Tout le temps. On ne sait pas qui dit vrai, qui dit faux, qui dit...
Exactement, pour mettre des sous dans un projet. Parfois, il y a la famille au sens large. Mmh. On a reçu Mev Louterding il y a quelques temps qui nous disait que lui-même, il a dû blesser des gens de sa famille parce que c'était too much. Mmh. C'était too much, il était ultra sollicité. Là, à travers Paul, à travers ce qu'on a vu, c'était la même chose. Mmh. Mais frère, mais il doit quoi à qui?
C'est ça que les gens ne comprennent pas, frère. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Tant que tu le vis pas, tu peux pas comprendre. Il y en a, ils vont plus loin que ça. Ils vont, tu vois, chercher à savoir le pourquoi du comment. Mais il y en a, ils veulent rien savoir. Tu gagnes ça, il faut que t'aides toute la planète. C'est de la folie.
Mais comment on peut... C'est de la folie, frère.
C'est de la folie. Mais maintenant, comment tu contrôles ça? Tu peux pas contrôler. Je me répète, je reste sur ce que je contrôle. Le reste, je peux pas contrôler. Tu peux pas.
Mais tu vois, par exemple... Toi, quand il y avait énormément de gens qui vous approchaient pour ceci et cela, toi qui as un peu plus de recul, pourquoi tu n'as pas mis le bouclier d'emblée?
Comment tu veux que je mette le bouclier? Il y en a un qui est là-bas, il y en a un qui est là-bas, il y en a un qui est là-bas. Quel bouclier tu vas mettre? Comment tu le crées?
Aujourd'hui, il y a différents moyens de communication, il y a plein de choses que tu peux mettre en place.
Mais tu parles moi, personnellement, ou bien moi créer l'équipe de bouclier?
Toi, créer l'équipe. Justement, de professionnels pour dire c'est pas comme ça que ça se passe. Tu ne peux pas nous attendre comme ça.
En fait, c'est ça. Ça fait tellement t'as de demandes que tu sais même plus qui est qui et t'as plus envie de mettre. T'as plus envie de, tu vois, même si t'as la pensée, tu dis, vas-y frère, c'est trop. T'entends des arnaqueurs à toute patate. Ton téléphone, il truc. Toi, tu penses que c'est bon. Après, on t'appelle, on te dit, non, on va pas avec cette personne. En fait, tu vois, c'est ça. C'est trop de déception. T'appelles, tu t'avances, tu penses que t'as bien avancé, tu vas recevoir un appel, eh non, fais pas ça avec lui, c'est une arnaque. Ou bien on te demande l'argent, tu vois, tu mets un truc sur la table, tu vois jamais l'avancement. Ça te décourage, frère. Après, tu dis, je préfère ne rien faire que de donner pour rien ou d'avancer pour rien. C'est ça le truc. C'est pas aussi facile, tu vois. C'est facile à dire, mais à l'appliquer, mon gars, c'est une autre affaire. Sans parler des sensus là, qui sont là, qui rôdent comme ça. Ils te regardent comme ça. Il a bougé à gauche, ah, on va à gauche. Il a bougé à droite, on va à droite. C'est ça.
Et qu'est-ce que t'as perdu à cause de cette affaire-là?
Des clubs de foot. C'est tout ce que j'ai perdu. Tout le reste, j'ai gagné. Maintenant, tu vas me poser, qu'est-ce que tu dis, tu veux parler de quoi quand tu dis t'as gagné?
Déjà, d'un point de vue professionnel,
ouais.
T'as répondu à une partie de ma question, mais même d'un point de vue familial ou de relationnel avec ton entourage ou des amis, par exemple.
Non, c'est là où je vais te répondre.
Ok.
J'ai gagné, tu sais là où j'ai gagné? Parce que j'ai viré tout ce que je ne voyais pas. Tu vois où je veux en venir ou pas? Toutes les personnes que je pensais qui étaient solides avec moi, c'est quand tu as des épreuves comme ça que tu vois qui est vraiment solide avec toi. Donc j'ai gagné en temps à éliminer toutes ces personnes. C'est là où je veux en venir.
Là, si j'ai bien compris, même à travers ton histoire, etc., t'as été un peu entourloupé. Mais comment tu fais aujourd'hui pour donner ta confiance comme ça à quelqu'un?
Aujourd'hui, c'est là-bas que j'ai appris ça. Ce que je peux faire, ce que la personne pourra faire pour moi, c'est là où je vais faire pour lui. Mais ça sera plus l'inverse. Avant, c'était l'inverse. Ce que moi, je pouvais faire pour toi, et c'était pas réciproque, je le faisais quand même parce que je suis comme ça. Mais après cette étape, c'est là où je passais de l'autre côté. Ce que tu peux faire pour moi, et après moi, je suis. Là, je vais le faire. Ouais.
En tout cas, je salue ta franchise, sincèrement, et j'espère, comme je te l'ai dit tout à l'heure, que tout rentrera dans l'ordre.
Ne t'en fais pas pour ça, je t'appellerai. Oui, on fera un FaceTime avec tous les frères, si tu veux. Voilà. Inch'Allah.
Inch'Allah, c'est ce que je veux voir, François. Voilà. Et les Kidari, c'est toujours tes potes?
Oui. Ah, tu les connais aussi?
Non, mais je sais pas.
Tu t'es bien renseigné, toi. J'aime bien. Ouais, les Kidari, bien sûr. Soldats.
D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais de tes journées? T'es toujours dans le foot?
Ouais.
T'es basé en France?
Je suis un peu partout dans l'Europe. Hein. Je me balade un peu. Je fais du coaching spécifique.
Tu peux être un peu plus précis?
Spécifique attaquant, précisément. Mais après, je peux faire tous les autres postes. Donc, tu viens, je te coach précisément sur ce que tu veux travailler sur le jour où tu viens. Je veux travailler aujourd'hui la vitesse, l'explosivité, on va travailler ça. Tu veux travailler les tirs en venant du côté gauche, on va travailler ça. Les tirs en venant du côté droit, on va travailler ça. Les longues passes, les centres, les tout, les mouvements. Voilà, ça c'est ma spécificité aujourd'hui.
Et comment, je veux dire, tu fais pour gagner la confiance des jeunes attaquants qui peuvent se dire « Ouais, mais toi, t'as pas fait une grande carrière, par exemple. »
J'ai jamais eu ce cas-là et je pense pas que je l'aurai. Parce que tu peux venir, tu peux douter peut-être, mais à partir du moment où tu viens au premier entraînement, ça revient très souvent. Regarde pas mon nom. Viens voir Mathias. Viens pas voir Mathias Pogba. Et c'est ce que je leur dis. Si vous venez pour Mathias Pogba, c'est bien. Mais jugez-moi sur ce qu'on va travailler. Venez pas parce que j'ai fait carrière et je suis le frère d'eux. Parce que je vais le voir. Venez pour bosser.
Et elle ressemble à quoi tes journées aujourd'hui?
Mes journées, elles sont remplies. Je suis rempli de projets. Rempli de projets, moi. C'est pas ça qui va éteindre mes projets. Ça, c'est clair et net, ça. Ça a fait même que gonfler mes projets. Parce que ça m'a inspiré. Le temps que j'avais là-bas, j'ai... Donc, je suis pas inquiet.
Et parce que moi, aux dernières nouvelles, tu me disais que tu vivais en Belgique, etc. Pourquoi t'as voulu partir d'ici?
Pour prendre un second souffle. Tu pouvais le prendre ici, hein.
Ouais.
Mais ici, tu connais Paris. C'est relou. Donc, j'ai voulu sortir de cette zone fraîche air. Et après, on repart. C'est exactement ce qui... Là, tout ce qui est en train de se passer, c'était prévu. On est sur la bonne voie. Voilà. Voilà pourquoi.
Ben, cas, je te remercie sincèrement,
Mathias. Merci à toi, parce que ça faisait longtemps. Donc.
Exactement.
C'est dur de parler sincèrement avec... tu connais les... Hein,
exact.
Je
ne
vais pas dire la suite.
Exact.
Là, c'est, ça fait du bien. Ça fait du bien.
En tout cas, déjà, merci pour ces paroles élogieuses, sincèrement. Mm-hmm. Et je souhaite de tout mon cœur que tout rentre dans l'ordre, frérot.
Ne t'en fais pas. Juste une question de temps. Saber.
Exactement. Exactement. C'était le tiers et qui est 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects avec mon homeboy Mathias Pogba pour We Hustle. Mes paroles valent tiers. Peace. We hustle, baby.